Dans cette dernière partie de l'EM, on retrouve aussi la dernière chronique lecture de la saison proposée par le CICODES, une association de Quimper qui fait de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Cette saison, elle nous présentait des livres documentaires qui aident à mieux comprendre le monde. Aujourd'hui, c'est une nouvelle bénévole de l'association, Akima Belghiti, qui va nous présenter deux livres. Bonjour Akima.
Bonjour Véronique.
Avec le CICODES, aujourd'hui, la chronique livre va encore porter sur un sujet qu'on a un petit peu traité. Enfin, on avait traité le sexisme. Et cette fois, on va parler de l'égalité des genres, toujours avec deux livres, sans doute un pour le jeune public et un plus pour les adultes. Alors, on commence par jeune public ou adulte ?
Je vais commencer par vous parler du livre pour enfants. Mais avant toute chose, je tiens à recontextualiser en deux, trois mots la thématique choisie. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Akima et je suis bénévole pour l'association CICODES. Donc j'ai trouvé les deux livres dont je vais vous parler aujourd'hui dans le centre de ressources dont dispose le CICODES à Quimper. La thématique que j'ai choisi d'aborder est celle de la lutte contre le sexisme et l'homophobie. Donc, c'est un sujet qui se trouve encore au cœur de notre actualité et qui concerne la lutte contre les discriminations liées au genre. Et ce sujet fait partie des 17 objectifs de l'agenda 2030 du développement durable. Donc on pourrait se poser la question, et je me le demande encore, mais d'où viennent toutes ces discriminations de genre? Et le sujet est très vaste et les réponses aussi. Mais aujourd'hui, je vais essayer de me centrer sur une piste de réponse qui est la culture visuelle dominante qui influence et limite nos perspectives. Et je pense qu'il est toujours intéressant d'analyser notre culture et les stéréotypes de genre qu'elle diffuse. Donc, pour commencer, je vais vous parler du livre pour enfants que j'ai choisi. Il s'appelle « L'amoureuse de Simone ». Le texte a été écrit par Elsa Kedadouche et les illustrations ont été faites par Amélie Anne Calmeau. La maison d'édition s'appelle « On ne compte pas pour du beurre » et celle-ci a la particularité d'agir pour la visibilité des enfants et des familles peu représentées dans la littérature de jeunesse. Donc pour reprendre leurs termes, cette maison d'édition se dit convaincue que la banalisation de nouvelles représentations sociales dans les histoires va dans le sens de leur engagement contre les discriminations. Car effectivement, je me suis posé la question personnellement aussi, qui a déjà lu un livre avec enfants, pour enfants, avec deux jeunes filles d'environ 5 ans, amoureuse et qui porte des beaux cheveux frisés. Personnellement, enfant, j'avais jamais vu de livre comme ça. Donc, je vais vous décrire physiquement ce livre. Pour commencer, donc les couleurs sont chaudes et vives. Les personnages sont essentiellement les deux jeunes filles qui s'appellent Simone et Makeda. Elles ont le regard lumineux, des grands yeux. L'une a des nattes sur la tête et l'autre deux couettes avec des cheveux frisés. Donc, il s'agit d'une histoire sur le sentiment amoureux, racontée avec beaucoup de poésie, de métaphores et des mots d'enfant. On pourrait prendre les mots de Simone. Elle nous raconte « Dans son cœur, il y a beaucoup d'étoiles et de soleil. Et puis parfois, il y a de l'orage. » Cette histoire d'amour naissant a la particularité d'être entre deux petites filles. L'homosexualité y est abordée, mais de façon pas frontale. Qui plus est, les deux protagonistes de l'histoire sont deux petites filles métisses. Et cette représentation permet également de lutter en douceur contre la sous-représentation de certaines cultures et personnes dans la littérature jeunesse. Donc plus précisément, l'histoire retrace les aventures que Simone vit et s'imagine, des questions qu'elle se pose et les difficultés qu'elle a à comprendre son amoureuse, car parfois elle a de la colère, parfois elle a de l'incompréhension, et donc c'est à ce moment-là que Simone va parler avec sa tante, et puis les choses vont s'arranger. Donc c'est une histoire douce, qui parle de comment vivre avec nos émotions et les autres, et une histoire qui finit bien, où il y est représenté un imaginaire paisible pour des enfants, et puis bah, surtout pour les enfants peu représentés dans la culture. Et donc c'est une histoire aussi où les petites filles aux cheveux frisés peuvent s'identifier facilement. Donc par rapport à l'âge, je dirais que c'est un livre qui n'a pas vraiment de limite d'âge à mes yeux. Il est conseillé à partir de 6 ans, mais pour petits et grands quoi. Et donc vous l'aurez compris, ce livre jeunesse permet d'ouvrir le regard sur les sentiments amoureux entre personnes de même sexe dès le plus jeune âge, et donc d'agir en faveur de la lutte contre l'homophobie en proposant un imaginaire paisible et sécure.
Donc, c'est l'amoureuse de Simone, d'Elsa Kedadouche et Améliane Calmeau, aux éditions On ne compte pas pour du beurre. Et Akima, une autre BD, mais cette fois pour les plus grands.
Et l'autre livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Commando culotte, les dessous du genre et de la pop culture. Il a été écrit et dessiné par Myrion Mal. La maison d'édition s'appelle Ankama Édition, dans la catégorie Label 619. Sa particularité est que c'est une BD didactique qui apprend à décrypter la façon dont les médias influencent nos manières de penser. Elle analyse en alternant avec humour, critique et déconstruction des mythes sexistes, ce qui nous permet de développer un regard différent sur la représentation des femmes dans la pop culture. et elle permet au lecteur de prendre conscience du sexisme qui nous entoure et de mettre des mots sur des actes et des comportements discriminatoires. Donc je vais commencer par définir ce qu'est la pop culture, parce que personnellement je ne savais pas, donc je me dis qu'il doit y en avoir d'autres. Ça vient de culture populaire, qui représente une forme de culture dont la principale caractéristique c'est d'être produite et appréciée par le plus grand nombre sur Terre. Donc c'est une culture avec très forte audience, et c'est à l'opposé d'une forme de culture qui ne toucherait qu'une petite partie de la population. Cette BD est tirée d'un blog que l'autrice a tenu depuis 2011. Et donc, elle pose la question de la place des femmes dans les blockbusters et les séries télé et de l'impact que ça produit dans nos sociétés. L'intention de Myriam Mal, et je reprends les propos que j'ai pu entendre d'elle dans un podcast, c'est de souligner l'importance de raconter des histoires où on n'est pas obligé de déconnecter nos cerveaux pour ne pas se sentir révolté. Donc l'objectif est d'informer les lecteurs en leur permettant d'identifier ces actes de sexisme pour ensuite qu'ils puissent les dénoncer et lutter contre. C'est une BD qui est organisée en une vingtaine de petits chapitres, entre 5 à 10 pages chacun, qu'on peut lire dans l'ordre qu'on le souhaite. Les dessins sont simples et plutôt drôles, moi j'ai beaucoup apprécié. Chaque chapitre a un code couleur et parle d'un sujet, d'un concept ou d'une analyse de série ou de film très connu. Elle détaille dans chaque partie, dans chaque chapitre, le sujet qu'elle cible, les points négatifs, les points positifs, des perspectives d'amélioration, des propositions et une petite conclusion. Elle a tenu à garder une note d'humour tout au long du livre et c'est vrai que ça apporte une note de légèreté avec des petits commentaires personnels par moment. Et malgré que les analyses qu'elle fait soient vraiment très sérieuses et révoltantes. Je dirais que c'est une BD qu'on peut lire à partir de l'adolescence, vers 14 ans, et qui a même tout son intérêt à cet âge-là, où on construit notre identité. Mais clairement, pour moi, il n'y a pas de limite d'âge. Pour vous donner des exemples des sujets abordés, il est question de la série Game of Thrones, du film American Pie, ou encore de Love Actually, ou La Revanche d'une Blonde, puis etc., une dizaine d'autres films et séries, mais aussi de certains concepts, comme le concept de la culture du viol, ou encore des jeux pour enfants comme les Barbie et Musclor. Et donc cela m'a fait aussi réfléchir, par exemple, au rapport aux normes de beauté, mais qui est clairement lié aux stéréotypes de genre. Et donc, par exemple, encore plus précisément, moi j'ai commencé par lire le chapitre sur American Pie, parce que ça a attiré ma curiosité tout de suite. Moi, adolescente, on en parlait beaucoup de ce film au collège, et donc ça m'a marqué. Donc c'est un film américain visionné par des millions d'adolescents dans le monde. Et il y a bien des aspects positifs, donc comme le souligne Myriam Mal. Par exemple, il parle du plaisir féminin. Mais par contre, l'autrice Myriam Mal décrypte aussi les aspects négatifs, tels que l'injonction à la virilité qui est soutenue par les représentations des hommes dans ce film. Elle souligne les blagues homophobes aussi. Et une scène de 10 minutes environ où le consentement n'est pas respecté. Et donc, du coup, on peut s'imaginer les traces que ça laisse dans l'imaginaire des adolescents et adolescentes, quel que soit leur genre. Et un autre exemple, donc le chapitre sur Game of Thrones, qui est une série qui est très connue, je pense que la plupart connaissent aussi, et dans le monde entier. Et donc, c'est assez récent comme série. C'est une fiction, et donc les imaginaires sont assez libres. Et Myriam Mal, l'autrice, souligne les aspects positifs, comme le fait que les femmes sont représentées avec des personnages intelligentes, influentes, fortes et indépendantes. Mais de l'autre côté, l'univers de la série est très sexiste et la violence sexuelle y est très présente. Et cela pose la question à quoi ça sert. Donc le sujet principal de cette BD est donc de montrer l'importance du male gaze, qui signifie le regard et le point de vue masculin, dans la culture populaire et dans les influences que ça a dans la création des stéréotypes de genre. Donc je vous partage une petite note d'histoire, parce que personnellement, je ne savais pas non plus ce que signifiait le male gaze. Donc c'est un concept proposé par Laura Mulvey en 1975, qui théorise le regard masculin de cinéaste avec des choix de mise en scène et de cadrage, plaçant les femmes à un objet de désir et de plaisir. Donc en fait, c'est ultra présent dans notre culture cinématographique, et effectivement, la plupart des réalisateurs des films sont des hommes. Et encore une fois, on peut se questionner là-dessus aussi. Et donc, plus récemment, le courant female gaze est né en réponse à ce male gaze. Et il se veut pas être l'inverse du male gaze, car le but n'est pas de reproduire un concept discriminatoire, mais sur un autre genre. Non, le but, c'est plutôt de proposer un regard où la question du genre est renversée, où la représentation des femmes est valorisée et diversifiée. Et personnellement, j'ai très hâte de regarder des films avec de nouvelles façons de voir les genres des personnages. Et donc, pour conclure, les films et séries façonnent notre imaginaire et influencent nos représentations. Et donc, du coup, depuis des décennies, on a la représentation des femmes dans les films qui participent à la diffusion des stéréotypes de genre et de la culture du sexisme. Et donc, on a beaucoup besoin d'alliés de tout genre et de toute profession pour avancer vers une égalité des genres. Et la petite note de fin, c'est que le CICODES organise la fête des droits de l'enfant à Quimper en novembre 2023. Et donc, ce sera sur le thème de l'égalité garçon-fille. Et vous pourrez trouver les informations très prochainement à la rentrée scolaire. Voilà, j'espère que vous avez donné envie de regarder et de lire ces livres et puis ces films aussi. bonne lecture à tous, bonne journée, au revoir.
Merci Akima Belghiti et aussi CODES, partenaire fidèle qu'on retrouvera bien sûr la saison prochaine dans l'EM.